Quand je lis le journal du matin, la plupart des nouvelles sont mauvaises et déprimantes. Alors quelquefois, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien habiter ailleurs plutôt que sur la terre, dans cette vallée de larmes? Eh bien, un jour, mon souhait se réalisera, et c'est le sujet de la dernière série de prophéties d'Ézéchiel qui nous donne un aperçu de ce que sera le ciel sur la terre. Les chapitres 33 à 39 de son livre prophétise le retour d'Israël dans son pays ainsi que son renouveau spirituel. À partir du chapitre 40, Ézéchiel dresse un tableau majestueux de la nouvelle vie du peuple de Dieu dans la Jérusalem terrestre pendant le millénium. Il décrit aussi en détail le nouveau temple ainsi que son fonctionnement. Plusieurs groupes de gens distincts feront partie du peuple de Dieu pendant le millénium. Il y aura d'abord tous ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ pendant la période des 7 ans de la tribulation et qui ont survécu aux persécutions de l'Antichrist. Deuxièmement, les croyants qui sont morts sous le régime de l'Ancien Testament ou pendant la tribulation ressusciteront et entreront dans le millénium. Quant à ceux qui auront fait partie de l'enlèvement de l'Église, ils verront le temple du millénium sur terre et peut-être même pourront-ils aller le visiter? Cependant, ce n'est pas là qu'ils adoreront Dieu. En effet, les membres de l'Église habiteront non pas ici-bas, mais dans la Nouvelle Jérusalem, dans les cieux, et qui sera leur adresse pendant l'éternité. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit cette ville disant « Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur le Tout-Puissant, ainsi que l'Agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. » Les membres de l'Église de Jésus-Christ seront dans une ville sans temple. Par contre, sur terre, et cela pendant 1000 ans, il y aura un temple à Jérusalem qui sera le centre de la vie spirituelle du monde. Les 9 derniers chapitres d'Ézéchiel sont le couronnement de son ministère prophétique et décrivent la façon dont s'accomplira la restauration d'Israël, le peuple élu. Toutes les promesses de l'Ancien Testament du genre « Je ramènerai Israël dans son pays, je ferai de lui une seule nation, ils ne se souilleront plus par leurs dieux infâmes, je les purifierai, mon serviteur David sera leur prince, ils suivront mes ordonnances, les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Toutes ces promesses réaliseront et constituent le programme des chapitres 40 à 48. On y voit l'Éternel en la personne du Messie qui habite au milieu du peuple spirituellement renouvelé, un nouvel Israël béni occupant la terre promise dans la paix. C'est donc en décrivant un temple reconstruit accompagné d'un saint sacerdoce qu'Ézéchiel présente le salut aux exilés de Babylonie. Il avait déjà annoncé l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple et le culte que ce dernier lui offrirait en retour. Mais, à partir d'ici, les prophéties deviennent beaucoup plus concrètes. Les chapitres 40 à 48 présentent cependant des difficultés d'interprétation et d'ordre sémantique, parce que Ézéchiel utilise beaucoup de termes rares ou très techniques. D'un autre côté, il n'est pas surprenant que le prophète, qui est prêtre et donc connaît bien le plan et le service de l'ancien temple, fasse fréquemment allusion à des détails familiers aux Israélites qui entendent ces prophéties. Oui, mais pour nous qui sommes très éloignés de ce cérémonial lourd et spécifiquement juif, l'interprétation demande beaucoup de rigueur et certains détails prophétiques sont quelque peu obscurs. Pour nous, la lecture de ces chapitres est fastidieuse, mais aux yeux des Juifs, on ne parle jamais assez du lieu où est l'Éternel. Ézéchiel a pris grand soin d'écrire une législation religieuse précise qui est proche d'une constitution et qui gérera la vie de la nation d'Israël. Il présente un tableau idéal qu'on peut résumer en un culte parfait dans un sanctuaire parfait bâti sur une terre parfaite. Je commence à lire le chapitre 40 d'Ézéchiel. Le 10e jour du premier mois de la 25e année de notre captivité, c'est-à-dire 14 ans après la prise de la ville de Jérusalem, exactement le même jour, la main de l'Éternel se posa sur moi et il me transporta là-bas. Le premier mois de l'année religieuse s'appelle Nisan ou Abib, et il est à cheval sur mars-avril. Nous sommes en 573 avant Jésus-Christ, et le 10e jour du mois correspond au début des préparatifs de la Pâque juive. Je continue. Il m'emmena dans des visions reçues de Dieu au pays d'Israël, et me déposa sur une très haute montagne sur laquelle s'élevaient, du côté du sud, des constructions qui ressemblaient à une ville. Quand il m'eut conduit là-bas, j'aperçus un homme qui paraissait de bronze et qui portait dans sa main un cordeau de lin pour mesurer une règle d'arpenteur. Il se tenait près de la porte de la ville. Dans les Écritures, chaque fois qu'apparaît un homme avec un instrument de mesure, il s'agit d'un ange, et cette présence signifie que Dieu va intervenir sur terre. Je continue. Cet homme me dit, « Fils d'homme, regarde bien de tes yeux, écoute de toutes tes oreilles. Fais bien attention à tout ce que je vais te montrer, car c'est pour te le faire voir que tu as été amené ici. Tu raconteras à la communauté d'Israël tout ce que tu verras. » Ézéchiel est transporté à Jérusalem, où il reçoit une vision de ce que sera le futur temple du millénium, dont le plan d'ensemble est assez voisin des temples de Salomon, Zorobabel ou Hérode. Ils ont tous un parvis extérieur et intérieur, des chambres annexes et un sanctuaire séparé en lieu saint et lieu très saint. Mais avant d'en venir au temple du millénium, faisons un tour d'horizon des divers temples qui furent construits à Jérusalem sur le mont Sion. Le premier fut érigé par Salomon pour remplacer le tabernacle portatif que les Hébreux avaient fabriqué dans le désert. Les Écritures expliquent en détail les raisons et les circonstances de la construction du temple de Salomon, ainsi que la liste des matériaux utilisés. Il fut détruit par Nabuchodonosor lors du sac de Jérusalem en juillet 587 avant Jésus-Christ. Le deuxième temple fut érigé par Zorobabel. Cet homme fut autorisé par le roi perse Cyrus à retourner en Palestine à la tête d'une colonie juive dont il devint le gouverneur. Ce temple est assez grand, mais minable comparé à celui de Salomon, parce que les matériaux utilisés sont de qualité inférieure. Commencé en 537 avant Jésus-Christ, la deuxième année après le retour d'exil, il est achevé en 515. La sixième année du règne du roi perse Darius. Comme le temple de Salomon, un voile sépare le lieu saint du lieu très saint. Cependant, le lieu très saint est vide parce que le coffre sacré et son couvercle ainsi que son contenu, la verge d'Aaron et un récipient de moine ont disparu. Ensuite, on a le célèbre temple d'Hérode qui est splendide et surpasse nettement le précédent. L'historien juif Joseph, qui le connaissait bien, le décrit en détail. Le livre des traditions juives en parle aussi. Hérode fait d'abord amener tous les matériaux nécessaires à la construction de ce temple avant de démolir ou rénover l'ancien. Les travaux commencent la 18e année de son règne, en l'an 20 avant Jésus-Christ. L'édifice est encore en construction à l'époque du Christ et n'est terminé que lorsqu'un certain Albinus est procurateur de la Judée aux environs de l'an 63 de notre ère. L'ensemble occupe deux fois plus d'espace que le temple de Zorobabel. Le sanctuaire a les mêmes longueurs et largeurs que celui de Salomon, mais sa hauteur est de 40 coudées au lieu de 30. Le sanctuaire comprend un lieu saint séparé par un voile du lieu très saint qui est vide comme pour le temple de Zorobabel. Néanmoins, sur la croix, quand Jésus a rendu l'esprit, ce voile s'est déchiré tout seul de haut en bas. Ce qui signifie que toute personne peut désormais entrer dans la présence même de Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ. Lors de la prise et du sac de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, ce temple est incendié par un soldat romain qui désobéit aux ordres du général Titus de ne pas le détruire. Il n'a jamais été reconstruit depuis. Par contre, en l'an 136 de notre ère, l'empereur romain Hadrien érige un sanctuaire à Jupiter sur son emplacement. Et en l'an 363, un certain Julien l'apostat veut le rebâtir, mais les ouvriers prétendent alors que des flammes jaillissant du sol les empêchent de mettre en place les fondations. En 691, Abd al-Malik construit sur l'emplacement du temple de Salomon le dôme du rocher, aussi appelé mosquée d'Omar. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Cependant, selon plusieurs passages des Écritures, au milieu des 7 ans de la tribulation, l'Antichrist commettra un acte blasphématoire dans le temple de Jérusalem, ce qui sous-entend évidemment qu'il a été reconstruit, et donc que c'est le 4e. Enfin, le 5e et dernier temple qui sera érigé est celui du millénium. C'est celui-là que l'ange fait visiter à Ézéchiel et qu'il va décrire en détail. Je continue de lire le chapitre 40. Voici ce que je vis. Un mur extérieur entourait le temple de tous côtés. Et l'homme tenait en main une règle d'arpenteur longue de 6 coudées. En prenant la coudée longue, un peu plus grande que la coudée ordinaire, il mesura l'épaisseur des murs de cette construction. Elle correspondait à la longueur de sa règle. Elle trouva la même dimension pour la hauteur. La coudée longue mesure 56,5 cm. Le mur d'enceinte du temple fait donc près de 3,40 m d'épaisseur et de hauteur. Dans la suite du texte, l'ange décrit les logements des gardes qui surveillent les entrées du sanctuaire, puis il mesure tout, les portes, les loges, le portique, les fenêtres grillagées, les piliers. Ézéchiel prend des notes qu'il nous rapporte. Après avoir tout mesuré, côté et langue passent au côté nord. Le mur d'enceinte carré de 282 mètres 5 de côté établit la séparation entre le profane et le complexe du temple qui est saint. Il a 3 portes d'accès. Dès qu'on entre dans cette forteresse, on se trouve dans le parvis dit extérieur, qui est une grande cour. Elle est carrée et bordée de 30 chambres qui servent de logement et de salle à manger aux lévites et aux gardiens. Il y en a 10 sur les côtés nord, sud et est. Dans le temple précédent, les parvis extérieurs étaient divisés en 3 cours, celle des païens, celle des femmes juives et celle des hommes juifs. Une fois dans le parvis extérieur, on aperçoit un haut bâtiment qui est le temple proprement dit. On y accède par 3 portes qui mènent au parvis intérieur, aussi appelé cour des prêtres, et où se trouve l'autel des holocaustes sur lequel on offre les sacrifices. Le parvis extérieur permet d'accéder à un 3e bâtiment qui est le sanctuaire. Seuls les prêtres peuvent y pénétrer et ils se trouvent alors dans le lieu saint. Au fond, un rideau ferme le lieu très saint dans lequel, sous le régime de la loi, seul le grand prêtre peut entrer, avec du sang d'un taureau sacrifié une fois par an pour le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. La conception du temple est telle que plus on s'approche de l'Éternel et plus l'entrée est restreinte. Je continue plus loin. Dans le portique de la porte se trouvaient 2 tables de chaque côté sur lesquelles étaient égorgées les victimes destinées aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché et aux sacrifices de culpabilité. C'est la première mention. Mais il y en aura beaucoup d'autres, du rétablissement du système lévitique avec des sacrifices d'animaux, ce qui avait cours dans le régime de l'Ancienne Alliance. La remise à jour de ce rite sanglant est surprenante du fait que la mort de Jésus-Christ. En effet, Et comme je l'ai déjà dit, quand il est mort sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de lui-même, signifiant par là que l'accès à Dieu était désormais ouvert à tous. Dans le système lévitique, l'offrande du sang d'animaux égorgés sert à couvrir certaines fautes des Israélites ou de la nation afin qu'il ne subsiste pas de jugement de Dieu. De plus, ces sacrifices préparaient le peuple d'Israël à la venue du Christ, l'agneau de Dieu, qui lui efface tous les péchés. Depuis la mort expiatoire de Jésus sur la croix, les protestants ont un rite qu'ils appellent la Sainte Cène, et qui est un simple mémorial qui rappelle que le Christ est mort pour nos péchés. Les catholiques ont la communion, qui, d'une certaine manière, remet en scène le sacrifice de la croix. Quand Jésus a institué la scène, il a demandé à ses disciples de se souvenir ainsi de lui jusqu'à ce qu'ils boivent à nouveau la coupe de vin en leur compagnie dans le royaume des cieux. La Sainte Cène a donc un caractère temporaire et cessera quand le Christ aura établi son royaume sur terre. Revenons maintenant à nos moutons, ou plus exactement aux moutons qui seront offerts en sacrifice pendant le millénium. Il faut bien garder à l'esprit que les sacrifices d'animaux n'ont jamais eu et n'auront jamais pour objectif d'effacer une faute, et ils sont sans rapport avec la réconciliation éternelle entre l'homme pécheur et son créateur qui l'a offensé. Le sang des animaux couvre seulement la faute afin que l'Éternel ne la voie pas en quelque sorte, et donc ne punisse pas le fautif. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Et quand Jean-Baptiste a introduit Jésus aux foules, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » De plus, et c'est important, le système lévitique des sacrifices d'animaux fait partie de la loi de Moïse qui a été donnée, non pas aux païens, mais aux Hébreux. Or, Israël est une théocratie, c'est-à-dire que son chef était l'Éternel lui-même, et son peuple devait obéir à ses commandements. Quand un individu ou la nation violait ses lois, le coupable était puni, mais c'était une sanction temporelle dans l'ici et maintenant. Pour certaines fautes graves, comme le meurtre, l'adultère, l'idolâtrie, les pratiques occultes, maudire ses parents, le châtiment était l'exécution pure et simple à coups de pierre. Aucun sacrifice d'animaux ne pouvait couvrir de tels péchés. Les Israélites, en tant que peuple, étaient généralement punis par des défaites militaires, la sécheresse, la famine et autres plaies diverses, personnelles ou nationales. Pendant le millénium, Jésus-Christ, le Messie, régnera sur toute la terre. Le monde entier sera sous un régime théocratique et donc soumis aux lois divines. Si une personne sera alors coupable d'un péché qui est passible de la peine capitale, il sera exécuté promptement. Mais pour les autres fautes, comme l'ignorance ou l'inadvertance, les seuls qui soient mentionnés dans le reste du livre d'Ézéchiel, leur souillure temporelle sera effacée par le système des sacrifices. Je vais donner un exemple. Pendant le millénium, tous les peuples devront observer la fête des cabanes, aussi appelée des tabernacles. Ce sera l'une des lois du gouvernement théocratique du Messie sur terre. Si une nation néglige de le faire, elle enfreint la loi. Mais s'il reconnaît sa faute et que par l'intermédiaire d'un représentant offre un sacrifice à Jérusalem, elle échappe au jugement temporel qui peut être l'absence de pluie, des tempêtes dévastatrices ou une épidémie. Il faut aussi supposer qu'il en sera de même des fautes personnelles ou communautaires qui ne seront pas passibles de la peine capitale. Cela dit, il me faut encore rappeler qu'en aucune circonstance, le sang versé d'un animal ne peut expier le moindre péché, quel qu'il soit. Ce n'était pas le but des sacrifices pour le régime de l'Ancien Testament, et ça ne le sera pas non plus pendant le millénium. Seul le sang de Jésus-Christ efface le péché et permet au pécheur d'effacer l'ardoise de sa culpabilité personnelle et d'obtenir le pardon de ses fautes. Je continue maintenant de lire le chapitre 40 d'Ézéchiel en compressant. Lorsqu'on montait vers l'entrée de la porte nord, il y avait 8 tables en tout sur lesquelles on égorgeait les victimes. Il y avait de plus 4 tables carrées d'une coudée et demie de côté et une coudée de hauteur. Elles étaient en pierre de taille et servaient aux holocaustes. On y déposait les instruments avec lesquels on immolait les victimes pour les holocaustes et les autres sacrifices. Il y a en tout 8 tables en bois et 4 plus petites en pierre. Elles sont utilisées pour abattre les animaux destinés aux sacrifices et pour le découpage des victimes. Je continue. Tout autour, à l'intérieur, se trouvaient des crochets larges d'une paume. La chair des offrandes était déposée sur les tables. Ces crochets, longs de 8 cm, sont fixés dans le mur à côté des tables. Une fois immolés, les animaux y sont suspendus afin qu'on puisse leur enlever la peau. Ensuite, les victimes sont découpées en quartiers sur les tables. Puis, les prêtres brûlent les chairs et les graisses sur l'autel quand le sacrifice est un holocauste. Je continue. En dehors de la porte intérieure, dans le parvis intérieur, se trouvaient des salles réservées aux musiciens. C'est le seul passage des prophéties d'Ézéchiel qui mentionne des musiciens. Le roi David avait établi certains lévites comme responsables du chant et de la musique pour louer l'Éternel. Je continue plus loin. Ce sont les descendants de Tsadok qui, parmi les descendants de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Tsadok est de la lignée du grand prêtre Aaron, ainsi que de Phinès, avec qui Dieu a conclu une alliance particulière. De plus, Tsadok lui-même a été fidèle à David et à Salomon. Voilà pourquoi ce sont ses descendants qui exercent la fonction de prêtre dans le temple du millénium. L'ange continue ensuite ses mesures. « Mais je vous en fais grâce. » Cependant, Ézéchiel fait une remarque intéressante qui est « L'autel se trouvait devant le temple. » En effet, aujourd'hui à Jérusalem, dans l'autel de la Terre Sainte, se trouve une grande reproduction de Jérusalem au temps de Jésus-Christ avec une copie du temple d'Hérode. Mais l'autel des holocaustes n'y figure pas. On l'a intentionnellement oublié parce que ça dérange. Cependant, le temple du millénium comprendra bel et bien un autel pour les sacrifices et il occupera un rôle central.